Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est la semaine passée que je me suis tapé les 37 épisodes de la série Death Note. C'est une série qui est sortie sous sa forme télévisée en 2006, puis qui va être tirée des mangas écrits par Tsugumi Oba et qui sont illustrés par Takeshi Obata.
Je ne parle pas de la série, je parle du manga initial.
Oui, ça a connu un franc succès. Le manga écrit qui a été débuté, a été écrit en 2003 jusqu'à 2006. Puis le succès a été aussi retranscrit.
Peux-tu nous rappeler un peu le synopsis de Death Note un peu?
C'est exactement ça que je vais faire. Donc, la série policière animée mais en vedette Light Yagami, c'est un jeune lycéen qui excelle autant à l'école qu'en dehors des classes. Cependant, en étant premier de classe et excellent dans les sports, plus particulièrement le tennis, Light s'ennuie et est à la recherche de nouveaux défis. La vie de Light va changer à jamais lorsqu'il est en classe et que par la fenêtre, il voit tomber du ciel un cahier sombre qui se pose parfaitement dans la pelouse de l'école. Curieux, à la fin de son cours, il va chercher le cahier pour y voir qu'il est écrit Death Note sur sa couverture, soit le cahier de la mort. En ouvrant le cahier, Light y trouve des règlements sur comment fonctionne le cahier. Donc dans ces règlements, il va avoir il faut que l'utilisateur ou utilisatrice pense au visage de la personne en écrivant le nom pour ne pas tuer une personne du même nom par accident. Ou sinon, en écrivant le nom d'une personne, cette personne va mourir d'une crise cardiaque 40 secondes après que son nom est inscrit. Si la cause de la mort est spécifiée, la personne meurt 6 minutes et 40 secondes après. On va aussi apprendre de nombreuses règles lors de ce qu'on écoute la série. Lors des pauses entre les scènes, il y aurait donc plus d'une centaine de règles qui vont suivre le porteur du Death Note. Yagami encore, dans sa nature curieuse, il va être tenté d'utiliser le Death Note afin de voir si son pouvoir est bel et bien réel. C'est avec stupéfaction qu'en rentrant chez lui à la maison que Light se rend compte que le Death Note fonctionne réellement. C'est en regardant la télévision, il écrit le nom d'un criminel qu'il voit en direct dans le cahier et celui-ci meurt avant que la police arrive à l'attraper. Prenant conscience du pouvoir qu'il détient, Light assassine de nombreux criminels de sa plume et de son cahier. C'est après avoir inscrit le nom de plusieurs personnes dans le Death Note qu'il fait la connaissance d'un nouveau personnage qui s'appelle Ryuk. Ryuk, c'est un
Ryuk,
c'est un Shinigami, soit un dieu de la mort. Il fait comprendre à Light qu'il vient d'un monde où d'autres Shinigami vivent ensemble. Ce monde ne fait pas partie de l'enfer ni du paradis. Tout comme Light, Ryuk s'ennuyait dans le monde des Shinigami, il a volontairement échappé son Death Note dans le monde des humains. Il va aussi apprendre à Light qu'il peut prendre les yeux de Shinigami afin de voir le nom des personnes qu'il regarde. Le coût de ce pouvoir avantageux a cependant un prix élevé, soit d'échanger la moitié de la durée restante de sa vie pour acquérir ce pouvoir. Puis c'est seulement les gens qui vont toucher au cahier qui vont être en mesure de voir les Shinigami. Et tout comme les humains, bien les Shinigami ont des personnalités différentes. Par exemple, Ryuk est intrigué par le comportement humain et a un amour particulier pour les pommes. Donc, par la suite, dans la série, on apprend, sans tout vous spoiler, que les meurtres répétés et nombreux vont attirer l'attention des chaînes télévisées qui vont aussi chercher à augmenter leur code d'écoute en diffusant le nom des criminels qui vont se faire tuer et des criminels tués. Aussi, des nombreux individus vénéreront Kira, qui va être l'alias de Light, par lequel il va tuer les criminels au nom de la justice. Évidemment, la police va se mêler de l'histoire, elle va s'intéresser à Kira. Si Light se dit avoir un sens de la justice, son père, Soichiro, a un sens de la justice imparable. Ça va être le chef de la police nationale. Plus tard dans la série, il va être assisté dans sa chasse à Kira d'un personnage nommé Elle. Tout comme Light, Elle, c'est un sourdoué au sens de la déduction remarquable. Toutefois, Elle a une apparence négligée et manque d'aptitude sociale. Il met au défi Light et le soupçonne avec raison d'être Kira, qu'il perçoit davantage comme un psychopathe qu'un justicier. La série en tout, c'est 37 épisodes d'une vingtaine à 30 minutes, dans un débit rapide où il y a beaucoup d'action et que l'on cherche à comprendre les limites de Death Note et jusqu'où Kira est prêt à s'en servir. On comprend que cela peut avoir une ampleur immense et impliquer de nombreux personnages. Par la suite, il va y avoir des détectives du FBI, des polices secrètes. Et on se rappelle ici que c'est une série qui se passe au Japon. Alors, en ce lundi matin, que feriez-vous avec un cahier de la mort si vous l'y avez dans une conscience qu'il est réel?
Vas-y,
j'ai quand même envie de dire que j'ai pas rappelé mon prénom à l'antenne aujourd'hui.
Parce que j'ai pas envie que certains de nos auditeurs se mettent à écrire mon prénom.
William.
Non.
Bon bah les gars, je vous remercie pour ces dernières 40 secondes. Et j'aimerais remercier mes parents de m'avoir mis au monde, de m'avoir fait découvrir cet univers qui m'a permis de lire des mangas écrits par des gens qui sont extrêmement talentueux et qui ont littéralement des problèmes pour écrire ce genre d'histoire.
Mais en vrai, ouais, c'est ça. Mais en vrai, ouais, qu'est-ce qu'on ferait avec un Death Note ? Telle est la question.
Moi, j'ai une autre question à te poser. Mm-hmm. C'est par rapport à l'adaptation et par rapport à tout ce travail-là. Est-ce que tu penses que... Enfin, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans... Si t'as lu ou vu les différentes versions de l'histoire ?
Qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est l'attachement qu'on a pour le personnage principal. Parce qu'on se dit, ah, c'est un justicier, ouais, c'est des criminels. Puis un peu comme je disais, c'est quand on embarque dans l'histoire.
T'as pas un attachement.
Non, mais vois-tu.
T'as une fascination, mais pas un attachement.
Mais au début, tu dis, ah, mais tu sais, c'est. Il est premier de classe, il est populaire, il a tout. Il a un peu toutes les. Vraiment les bonnes qualités, mais après, tu fais, ouais, non, ça commence à aller loin, son truc. Puis là, il y a d'autres personnages
comme
aussi
quoi,
qui s'incrustent.
Comme quoi, être un génie incompris, c'est pas forcément gage de.
C'est ça.
Puis je lance un regard assiste Ryan pour nos vidéos.
Bah moi, en vrai, sincèrement, je vais vous dire un truc. Moi, je pense que si on avait un cas de figure comme ça dans la vraie vie, c'est vrai, la question, c'est, parce qu'en vrai, ça revient à débattre sur le droit de la peine de mort en soi.
Quand même.
Est-ce que, genre, vous pensez que le droit de la peine de mort est acceptable ? Est-ce que vous pensez qu'actuellement, genre, ça c'est censé encore avoir lieu, surtout en plus ça tombe bien en vue d'une période où on a pas mal de gens qui sont agencés à des crimes très importants. On rappelle que là, que ce soit les crimes de pédophilie ou de sexualité ou autre, en l'encontre des femmes a pas mal augmenté depuis plusieurs années. Est-ce que vous pensez, vous, que la peine de mort c'est justifiable et ça a son importance ou quoi?
Bah,
c'est un sujet assez hard, je suis désolé, je suis un téléspectateur.
On a vraiment vrillé en fait du sujet original, mais c'est le même sujet, c'est ça qui est bizarre.
C'est ça en fait, parce qu'en vrai, Kira c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait une justice soi-même et qui réhabilite un peu la peine de mort. Parce qu'on le veuille ou non, il tue que des criminels, après pas que, parce que quand l'histoire va évoluer, on voit qu'il ne se limite pas à ça, il se limite à toute personne qui s'oppose à son projet. Mais est-ce que... la peine de mort, c'est viable comme méthode. C'est ça la question. Parce que moi, par exemple, j'ai un Death Note, ce que je fais, c'est quoi? C'est que si je peux tuer des choses métaphoriques, je tue plein de choses métaphoriques, mais je vais pas tuer des gens réels. C'est ça la question. Après, on sait pas de quoi est fait l'esprit humain, mais moi, je pense que...
Je vais tuer la pauvreté.
Moi, je pense que c'est un bon exemple. Ça démontre peut-être que au-delà de ça, sur notre monde actuel, le droit de vie et de mort... ne devrait pas être adonné à une personne ou même plusieurs personnes.
Ah,
parce que ça aboutit à la fin à de grosses dérives. Je parlerai notamment de la guerre ou autre.
Non. Mm-hmm. Moi, le premier truc que je tuerais, en fait, là, tu disais un truc.
Parce que pour moi, la guerre, c'est une peine de mort. Juste finir avec ça. Pour moi, la guerre, c'est une peine de mort massive. Que tu le veuilles ou non, t'envoies des soldats se battre.
Donc toi, tu tuerais plutôt la guerre, mais moi, je tuerais plutôt la faim. Tu vois ce que je veux dire ? Je tuerais plutôt nos besoins primitifs. Tu vois, comme ça, en fait, on pourrait exister sans avoir besoin de se battre pour subsister. Tu vois ce que je veux dire ?
Bah non, parce que dans tous les cas, c'est pas la nourriture. Les ressources,
c'est... Du jour au lendemain, plus de pauvreté, plus de guerre.
Les ressources, en vrai, c'est pas ce qui provoque la guerre. C'est pas une des causes principales.
Ah, tu penses que c'est plutôt l'ego ?
Oui, en partie. Tu le veux ou non, c'est quoi la guerre ? C'est quand t'envoies... Je vulgarise beaucoup, hein, mais c'est quand t'envoies des institutions, quand des institutions envoient des hommes dans le gouvernement pour se battre.
Est-ce qu'eux
ils veulent ça réellement, en vrai?
Bien sûr que non. Ils veulent quelque chose d'autre. Plein de choses. Je pense que tu peux pas lancer une guerre juste pour un besoin. En fait.
Bah moi je pense que actuellement, si on devrait faire un parallèle, je dirais sur ça, je dirais que genre, est-ce que actuellement on autorise? Et je pense que oui. Du coup, est-ce qu'on autorise la mort de plusieurs personnes, la peine de mort notamment? Et est-ce que en vrai, on n'a pas fait notre temps sur ça ? Est-ce que pour vous, il y a certains crimes qui sont... On va faire ça plus simplement. Est-ce que pour vous, certains criminels qui commettent certains crimes, et j'aimerais bien avoir vos crimes, mériteraient la peine de mort, selon vous ? Moi, personnellement, la pédophilie, pour moi, c'est hard.
Eh ben moi, je vais te dire un truc. J'autorise le meurtre seulement dans l'affection. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est le pouvoir de la fiction, c'est de pouvoir s'attacher à des personnages qui sont antipathiques, qui ne nous ressemblent pas, et qui nous font penser et comprendre le monde différemment. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà de l'actualité, le fait de prendre une certaine distance vis-à-vis du sujet, au travers d'un protagoniste qui fait des choses qu'on ne pourra jamais faire ou qu'on ne devra jamais faire, je pense que c'est peut-être ce qui rend la fiction la plus belle et sous toutes ses formes, c'est de pouvoir nous approprier quelque chose qu'on ne deviendra jamais pour faire de nous des personnes meilleures. Et j'en suis persuadé. La littérature nous change, en fait.
Ok. Alors, je sais ce que tu veux dire.
Moi, je dirais aussi là-dessus...
Donc toi, tu penses que... Je fais juste une racte. Tu penses que toi, du coup, Kira, le personnage de Kira, il te montre ce que tu veux pas devenir?
Non, je pense qu'il y a plein de facettes d'un personnage qui peuvent nous ressembler, qui peuvent nous faire de nous... nous donner l'illusion que le personnage nous ressemble. Mais le fait que justement on s'attache à un personnage pour qu'il devienne un monstre, en fait, c'est précisément ce qui nous permet de prendre de la distance en fait avec l'œuvre et de nous faire réfléchir. On doit avoir un aspect réflexif sur notre propre lecture, en fait. Et je pense que c'est le cœur de toute fiction, c'est de nous apporter de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, et de nous faire cogiter avec ça. Et de juste nous transcender, en fait, en permanence. Donc non, en lisant Death Note, je ne me dis pas, j'ai envie d'avoir un Death Note pour pouvoir écrire les noms.
Mais t'as envie de te dire, j'ai envie de ne pas avoir un Death Note, plutôt.
Les deux.
Okay.
En fait, tout en même temps. Mais si ça existait, si on était dans cet univers fictionnel, je pense que justement, le but du jeu, c'est de ne pas s'en servir, en fait.
Moi, je pense que je le vendrais, en vrai.
Ah. Le vendeur d'armes.
Moi, je le mets en vente et je le détruis. Après que ça soit viré.
Ben moi, je résiste sur la peine de mort. Ben, c'est intéressant parce qu'au Japon, la peine de mort aussi, c'est quelque chose qui est encore pratiqué. Fait que ça donne une espèce de double dualité là-dedans. Je trouve que c'est, comme tu posais la question, c'est quelque chose de très culturel ici. C'est pas quelque chose qu'on parle à tous les jours. C'est un peu pour ça que je voulais en parler, mais dans des États au sud, aux États-Unis, il y a une relation vraiment entre les détenus puis les gens qui vont exécuter la peine de mort comme une acceptation que c'est ça, si t'en sors, ton espèce de destin, puis toute une conception par rapport à ça. Mais admettons, dans un contexte québécois ou dans les contextes français, c'est
moi, je pense
c'est
que pour moi, la peine de mort, en soi, je pense que personnellement, aucune personne ou institut a le droit de choisir, le droit de vie ou de mort de quelqu'un, malgré les crimes. Mais quand je vois certains crimes commis, moi c'est la pédophilie, pour moi c'est la pire chose au monde. J'ai vu des déviants partir sur des choses horribles, donc je n'étayerai pas le détail ici. Mais t'as un peu cette envie de te dire que, quand même, je veux pas revoir quelqu'un comme ça. Putain, faudrait s'attaquer au problème. Sauf que, par exemple, les Québécois, vous avez une démarche, c'est de tout le temps chercher le pourquoi.
C'est
que
vrai.
Dans plusieurs pays, il n'y a pas. Par exemple, vous voyez quelqu'un commettre des crimes lourds et graves, vous vous demandez pourquoi, comment il en est arrivé là.
Ouais.
Tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait qu'actuellement, certains États décident de ne pas appliquer cette peine de mort. Parce qu'il y a aussi l'envie d'essayer de comprendre pourquoi ces personnes ont fait là. Mais en même temps, tu te dis que si tu cherches le pourquoi, tu justifies un peu ce qu'il fait. Or, il y a certaines choses où tu n'as pas envie de te dire que la justification est valable. Moi, je te donne un exemple. Quand tu as un mec qui a séquestré une fille, qui l'a tuée, qui lui a fait des trucs de fou, et qu'on arrive au tribunal, et que tu vois la tête des parents de cette petite fille, tu entends ce qu'ils disent, tu entends ce qu'ils veulent, t'as beaucoup de difficultés à accepter que cet individu va vivre et que l'autre va disparaître à jamais, tu vois. Mais parallèlement à ça, après, je pense que l'être humain n'a pas ce droit de choisir la vie ou de mort sur une autre personne. C'est deux philosophies qui s'opposent et je pense que trancher dans ces deux philosophies, c'est pas une option. Après, on pourrait détailler encore le sujet pendant des heures, mais je vais limiter à la réponse que je pense que, et après, William, tu réagiras sur ça.
C'est ma dernière réaction.
Ouais, mais tranquille, t'inquiète.
Ouais, ouais.
Je pense que actuellement, on n'a pas ce droit, nous, quoi qu'on le veuille dans nos sociétés, on n'a pas ce droit. On n'est pas à ce point en situation critique. pour pouvoir appliquer la peine de mort. Peut-être que ma pensée pourra changer si, imaginons, on est dans un monde post-apocalyptique ou tout ce que tu veux, ou genre, si tu laisses quelqu'un comme ça, t'as plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont mourir. C'est ça la question.
Sans retourner dans la fiction, avec le post-apo et les zombies. Non, il y a quelque chose qui est très important que vous avez dit tous les deux. Tu parlais de justice. Ryan et Sarin, ils parlaient tout à l'heure de, en fait, le caractère endémique de notre pensée et de, bah oui, en fait, au Japon, on n'a pas la même pensée qu'en France ou qu'au Québec. Oui, et ce que vous disiez, en fait, vraiment, c'est ma dernière réaction. Ce que vous disiez, c'est hyper important parce qu'en fait, les mentalités d'un pays à l'autre bout du monde, bah, en fait, elles changent. Mmh. On n'a pas tous la même manière d'appréhender le crime, d'appréhender la guerre, d'appréhender tout ça. Et je pense que c'est d'autant plus important de lire des fictions d'un autre pays. Là, on parlait du manga, justement, ouais, bah, ça tombe bien. On doit consommer de la fiction d'autres mondes, d'autres pays, pour mieux comprendre, en fait, leur manière de penser. Généralement, effectivement, dans le manga, c'est aussi des pensées qui sont exacerbées, mais justement pour le meilleur, en fait. Parce que, justement, le style permet de mettre en exergue ces questions-là. Mais ouais, c'est vraiment... Lisez du manga, lisez de la BD franco-belge, lisez du comics, lisez de la littérature de SF, lisez de la littérature de fantasy. Posez-vous des questions à chaque fois que vous lisez des lignes. Ouais, c'est... Construisons notre esprit critique au travers de la fiction.
Bah, c'est un peu comme Ryan disait, ici au Québec, ici on a vraiment un système de justice qui permet aussi à une deuxième chance, un peu, si on veut dire, ici un retour dans la société. Donc on prépare le détenu à réintégrer un mode de vie, tu sais, avec des programmes des fois même d'emploi. Certains détenus ont des conditions qui sont assez bonnes. Des fois, on parle aussi dans les pays scandinaves. C'est ça, ou dans les pays d'Europe qui ont des PlayStation, que c'est quasiment mieux qu'un appartement, littéralement.
Quand tu payes ta prison, t'as le droit d'avoir des logements de fou.
C'est ça, puis d'avoir une condition aussi pour quand tu vas retourner dans le monde, ben, tu veux que tu te retrouves pas là nécessairement non plus. Puis ça fait aussi un parallèle ou une différence avec les États-Unis qui ont un système carcéral qui est vraiment plus difficile, comme on a pu voir avec P. Diddy, qui se plaignait de ses petites cellules, des repas qui n'étaient pas bons, des trucs comme ça.
Mais après, vu ce qu'il a fait...
c'est ça, oui. Ben, c'est ça, c'est pas un peu ça pour dire, est-ce qu'on ramène la peine de mort pour ça? Non.
Ouais. Non, c'est la vérité.
Donc, où trancher?
C'est le mot de la fin. À vous de trancher. Quel est votre avis? Et quel est votre avis? Est-ce que la littérature nous soutiendrait à peut-être potentiellement avoir des décisions un peu plus sociales et politiques? Et selon vous, quelle est la cause de la décision finale quelles sont les causes qui font qu'on tranche sur cette décision de peine de mort dans certains pays ou certaines villes? C'est la seconde question des débats qu'on a eus. En tout cas, n'oubliez pas de réagir sur le site CFAQ si vous avez envie de partager votre avis et votre opinion, et la chaîne YouTube également qui a été mise en place. Sur ce petit court pouce pauvre, on reviendra avec un sujet assez important, assez lourd, et on finira sur ce point-là. On se voit juste après la pub et sachez-le, le prochain sujet va tous vous parler.